Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'After Live spécial Ligue des Champions après Marseille hier. Paris ce soir au Portugal, à Lisbonne, pour affronter Benfica. On y va dans un instant. D'abord, j'accueille Coach Courbis. Salut, coach.
Salut, les amis, et salut à tous.
Et Lionel Charbonnier. Bonsoir, Lionel.
Bonsoir Nico, bonsoir Roland, bonsoir à tous.
Salut Lionel. Il y a un truc que j'avais compris, vous allez peut-être m'aider. Lionel Messi, on l'appelle Léo. Et toi, pourquoi on t'appelle Léo?
Très bonne question, on va désormais.
Non, moi, Léo, moi.
Et toi, pourquoi on t'appelle pas
Léo Charbonnier? Voilà.
Ouais, moi, c'est Léo.
Bah ouais. Donc, Léo, toi, comme la chanteuse.
Ouais. Bah, c'est plus logique.
Ouais.
Banana split, ouais, quoi.
À cause des bananes, quoi, sûrement. Je sais pas.
Bon, messieurs, on a une belle soirée devant nous, a priori.
Des fois, j'avais les mains en pot de pêche, c'est peut-être ça. J'avais les gants en pot de pêche, je sais pas, c'est possible.
Non, t'as jamais laissé un ballon passer, toi, comme ça, non?
Rarement, mais j'ai pas ça en souvenir, mais j'ai dû en faire.
Un jour, on parlera de tes plus grosses bourdes, s'il y en a. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, moi.
Je suis pas sûr. Ah, j'en ai une à Marseille. Hein.
Ah, il était assez sobre comme gardien.
Oui, hein. Ouais,
il en rajoutait pas.
Sobre, efficace.
Ouais.
Hommage à Lio, donc totalement imprévu ce soir sur RMC. j'aime bien. C'est ça aussi RMC. Lio qui est toujours parmi nous, bien sûr. Hein. Mais...
donc pas confondre avec Léo.
Avec Léo. Les gars, on va se régaler ce soir, j'en suis sûr. L'Estadio d'Alous, l'un des plus beaux stades d'Europe. Sur place, ils ont de la chance. Jeannot Séguier. Fabrice Hawkins, bonsoir messieurs.
Salut à tous.
Bonsoir tout le monde.
Jeannot qui a dansé sur Léo peut-être dans sa jeunesse. Hein.
Et oui, tout à fait. Et Léo, c'était le surnom de Léo Messi, mais il n'aimait pas Léo.
Ah bon ?
Et c'est la raison pour laquelle il a voulu qu'on l'appelle Léo.
D'accord. Très bonne
parce qu'en fait, on l'a appelé Lionel, ouais, pour une histoire de chanteur célèbre. Voilà.
C'était à cause de moi, je crois. Que c'est pas
comme Lionel Charbonnier, on l'appelait Léo et ça lui plaisait pas. Et il a décidé qu'il fallait l'appeler.
Vous avez loupé une référence de coach. Hein.
Non, j'ai dit, bah, c'est comme ça, ces chaussures, ils étaient bien ferrées.
Comme Léo. Vous l'avez
Léo. Ouais. Léo ferré.
Voilà les gars. La composition.
Ça, c'est une belle ouverture.
Je disais, vous avez de la chance, les gars, parce que vous êtes dans un des plus beaux stades d'Europe, on va pas se mentir. Hein.
On est d'accord.
Le stade de la Louse qui sera guichet fermé. Ça va être quelque chose, Jeannot.
Il y a 60 000. Hein.
62 000 spectateurs, effectivement, guichet fermé. Et en plus, ils nous ont préparé un immense tifo qui va faire tout le tour du stade et des tribunes. Il y aura 3200 supporters parisiens quand même qui ont fait le déplacement. Alors, pour Fabrice, c'était une découverte et il a vu ce qui se passait autour du stade. Parce que là, au moment où on se parle, on est à une heure du coup d'envoi, il n'y a personne dans le stade, quasiment personne. Ils sont tous dehors.
Oui, c'est ce qui est un peu particulier d'ailleurs, c'est qu'ils sont tous dehors en train d'attendre de faire monter la température tranquillement. Ils vont rentrer sans doute quelques minutes avant le coup d'envoi pour venir chauffer ce stade, contrairement d'ailleurs à Haïfa, hein, il y a deux semaines, où vraiment tous les supporters étaient quasiment tous là dès le départ, une heure avant le coup d'envoi. Là c'est pas le cas, mais on sent vraiment qu'il va se passer quelque chose et qu'ils vont pousser très très fort.
On verra ça bien sûr à partir de 21h pour le coup d'envoi, match à vivre bien sûr.
Alors, sachez que pour la petite histoire, il y a un joueur qui s'appelle Danilo, hein, qui est passé jeune au Benfica, mais qui n'a jamais réussi à percer avant de percer au FC Porto, qui a briefé tous ses partenaires sur l'ambiance, sur ce qui allait se passer, sur la façon dont ils allaient être un petit peu secoués verbalement, tous les uns après les autres. Il leur a expliqué, parce que dans l'histoire du PSG, il y a eu quand même trois matchs contre Benfica, deux fois contre en Ligue Europa, une fois en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était 2013 avec Laurent Blanc, en décembre, il y avait une défaite. À chaque fois, ils ont perdu. Le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné ici contre Benfica. Le PSG, la finale à 8 de 2020, a éliminé l'Atalanta et le RB Leipzig avant de tomber en finale face face au Bayern Munich.
Dans un stade vide à l'époque, bien sûr.
Il y a une, en plus, c'était effectivement la période Covid. Donc, il y a une vraie histoire autour du PSG et du défi à relever ce soir pour Christophe Galtier. Mais voilà, au-delà de Vitinha, de Nuno Mendes, il y a aussi Danilo et il a vraiment discuté avec ses partenaires pour leur expliquer à quoi il devait s'attendre.
Et puis en plus, il y a pas mal de lusitanophones, hein. Il y a Marquinhos, Neymar notamment, donc ils vont pouvoir comprendre assez facilement ce que racontent les supporters du Benfica.
Messieurs, l'essentiel, c'est la composition du PSG. Pouvons-nous la confirmer, celle qu'on a annoncée depuis hier ?
Oui, c'est un 3-4-1-2 sans grande surprise. Trois changements par rapport à l'équipe qui était proposée par Christophe Galtier contre Nice le week-end dernier, avec notamment Donnarumma dans les buts, défense à 3, Danilo, Marquinhos et Ramos. On rappelle que Kimpembe est toujours out. Juste devant, une ligne de 4 avec Nuno Mendes à gauche, Achraf Hakimi à droite, Vitinha et Verratti qui fait son grand retour, lui qui avait été blessé lors du match de championnat contre Lyon. Et puis devant, la triplette, Messi et Neymar, Mbappé également, 3 buts en Ligue des Champions en 2 matchs. Équipe emmenée évidemment par Christophe Galtier. Renato Sanchez, on le rappelle, lui aussi passé par Benfica comme Danilo Pereira, est absent.
La composition de l'adversaire, le Benfica, Jeannot.
C'est la même équipe qui a battu le Maccabi Haïfa, c'est la même équipe qui est allée gagner à la Juve. Et pour Roger Schmidt, ça ne bouge pas pour l'entraîneur allemand. Vlachodimos, le gardien international grec, dans les buts. Otamendi, associé au jeune défenseur Antonio Silva, 18 ans seulement. L'international danois bat dans le couloir droit. Grimaldo, l'espagnol, dans le couloir gauche. Le milieu de terrain occupé par Florentino et Fernandez, autre jeune joueur. Lui, il est argentin, il a 21 ans. Rafa Silva, lui, sort positionné dans le 4-2-3-1 derrière l'attaquant, autre jeune joueur 21 ans, Gonçalo Ramos, qui était sur les tablettes du PSG cet été. C'était ou lui ou Ekitike. Joao Mario sur le côté gauche et David Neres, le brésilien, sur le côté droit. On ne change pas une équipe qui gagne pour Benfica,
qui n'a plus perdu depuis le mois de mai dernier. On va en parler dans un instant de Benfica, hein. 14 matchs cette saison, 13 victoires, 1 nul, co-leader du groupe avec le PSG en Ligue des Champions. Les gars, qu'est-ce que vous faites réagir sur la composition du PSG spontanément, coach, toi ?
Mais si tu veux, est-ce qu'on a une explication ou une indiscrétion pour arriver à comprendre que Ramos est passé d'un côté à l'autre et avec Danilo, qu'ils ont inversé les rôles ?
En tout cas, c'est ce qui a été travaillé
à droite.
C'est ce qui a été travaillé à l'entraînement. C'est vrai qu'ils ont interchangé. Ce sera intéressant d'ailleurs de demander précisément la question à Christophe Galtier. C'est sans doute, hein, et encore une fois, j'ai pas envie de m'avancer, Christophe Galtier me donnera la réponse, mais peut-être que Danilo Pereira se sent mieux à ce poste-là.
Ouais.
D'accord.
Ouais, certain. Et Ramos a déjà fait ce positionnement à gauche. Il a débuté comme ça. C'est déjà
son premier match. Qui joue à gauche ou à droite, ça me fait pas changer d'idée. Après, est-ce que c'est moi qui ai la bonne?
Mis au milieu.
Tu l'aurais préféré dans l'axe de la charnière. C'est ça, ouais. Exactement.
Mais bon, ça c'est autre chose. Il doit y avoir un petit détail qui m'échappe parce que je comprends pas, puisque lui, vu son âge, vu la fragilité qu'il a pu avoir sur ces deux dernières années, c'est quand même plus tranquille, plus pépère dans l'axe, comme le libéro là, qui a Hilton, qui a joué jusqu'à 42 ans. Mais par contre, être sur un côté, coulisser derrière le latéral, se retrouver en train d'intervenir, ça fait beaucoup beaucoup plus de travail.
L'activité est plus importante. Ouais.
Après, encore une fois, coach, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas, on met pas le patron de la défense, le capitaine en plus, c'est pas une question politique aussi, Marquinhos dans l'axe de la défense,
oui,
de la
charnière. Il était avant. Peut-être il y a dû certainement.
Et puis il était déjà avant. Tu as raison, Fabrice.
Il y a dû y avoir certainement des discussions. Et sinon, c'est pas arrivé comme ça tout seul. Nous, on se pose des questions, grand point d'interrogation, parce que il y a certaines choses qui nous paraissent logiques, mais il y a des choses qui nous échappent peut-être. Mais j'aimerais bien savoir quoi, je suis curieux.
Curieux, en tout cas, pas une défense expérimentale, mais on va la regarder avec attention ce soir.
Si tu veux, je vais regarder, évidemment, le match comme tout le monde, mais je vais regarder aussi le match de Ramos, entre autres, compte tenu que ces joueurs de Benfica, j'ai eu le plaisir cette saison de les voir jouer 3-4 fois. Je les trouve énormes, donc je ne sais pas s'ils sont en forme ce soir.
Ce soir, c'est un vrai test, hein, je trouve aussi. Là, je suis d'accord pour la défense. Hein.
Là, ils ont quand même, comme tu l'as dit, un beau test. Là, s'ils sont vraiment solides contre cette équipe de Benfica, je trouve le potentiel offensif de Benfica très intéressant.
On va parler du Benfica Lisbonne dans un instant avec coach Lionel, Jeannot et Fabrice, bien sûr, cette équipe leader du championnat portugais qui a, je dis au passage, 9 points d'avance sur le Sporting.
qui compte 6 points en phase de poule de Ligue des Champions. On en parle dans un instant, on va parler de Messi également, retour en forme de Léo Messi, et également du retour de Verratti. Qu'est-ce que ça va apporter ce soir au PSG face à une équipe du Benfica qui risque de presser très haut le Paris Saint-Germain? Vous nous appelez, supporters du PSG, au 32-16. On va réagir à la composition, bien sûr, portugaise et française. N'hésitez pas, c'est l'After Live sur RMC, alors qu'à l'instant, le RB Leipzig vient de reprendre l'avantage face au Celtic. Match qui a débuté à 18h45, 2-1. C'est Szoboszlai qui vient de marquer pour le RB Leipzig après 102 minutes de jeu. Et dans l'autre match du groupe, toujours 0-0, les gars, l'autre match du groupe, qui oppose, coach, tu vas m'aider, tu l'as, le
Maccabi Haïfa,
Salzbourg et le Dynamo Zagreb. 0-0 dans le groupe E, le groupe de Chelsea Milan également, qui s'affronte ce soir à partir de 21h. Reste avec nous, c'est l'After Live sur RMC, à tout de suite.
RMC, l'After Live,
Nicolas Jamain.
L'After Live sur RMC, spécial Ligue des Champions, spécial Benfica Lisbonne, Paris Saint-Germain, avec à mes côtés coach Courbis, Lionel Charbonnier, Estadio d'Alous, pardon, Jeannot Séguier et Fabrice Hawkins au commentaire de ce match. Messieurs, alors qu'à l'instant, le RB Leipzig, qui a vu son deuxième but refusé pour un hors-jeu, a finalement marqué. Donc mène bien 2-1, ouais. Ce soir, coach.
Pas ce décisif du gardien. Mais c'est la mode dans, avec ces, ouais,
comme on l'a vu hier,
ces relances là. Eh bien, continuer à relancer comme ça. Ben,
ouais, c'était l'objet d'un débat hier soir de l'After avec Lionel, notamment, sur ce qu'on demande aux gardiens, ouais, de toujours relancer.
Vous en avez parlé. J'ai l'impression qu'il n'y a que le gardien qui est capable de mettre un ballon devant, tu vois, jouer sur un jeu long ou mi-long. Il n'y a que le gardien. Les joueurs de champ sont plus capables. C'est au gardien de faire ça.
Si. Il y en a un à Toulouse, Van den Boomen.
C'est vrai,
non mais sérieux.
C'est vrai,
regarde, il l'a fait d'ailleurs ce week-end contre Montpellier. Il a beaucoup, énormément fait en Ligue 2. Là, il est meilleur passeur de la Ligue 2 et il est à 4 passes décisives. Regarde le jouer, tu verras. Lui fait des longues passes, des diagonales,
c'est vrai.
Des ballons en profondeur. Il n'hésite pas à venir devant la surface de
réparation. Au lieu de donner au gardien, ça fait un risque. Exactement. En moins. C'est lui, et lui, il est capable de le faire. Bon, il y en a d'autres qui sont capables, mais ils savent plus.
Bon quart d'heure.
Bon, ça va. J'ai rempli ma soirée. J'ai parlé de Toulouse.
Bon quart d'heure de la Galaxie Red Bull, puisque à l'instant également, le RB Salzbourg vient d'ouvrir le score sur penalty face au Dynamo Zagreb. 1-0 pour le RB Salzbourg, donc 2-1 pour le RB Leipzig face au Celtic Glasgow. Messieurs, on parlait à l'instant de le danger, le mot était un peu fort. En tout cas, on prévient de la forme du moment du Benfica Lisbonne, leader du championnat portugais. Écoutez ce qu'a dit Christophe Galtier en conférence de presse justement sur l'adversaire du soir.
C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, est invaincue et qu'elle est très intéressante à avoir joué, très bien organisée, avec de la qualité à la fois individuelle, mais aussi une force collective importante. Et je ne suis pas surpris qu'elle soit à ce niveau-là. Aujourd'hui, Benfica peut prétendre être un favori de ce groupe-là.
Et oui, il y a égalité de points pour l'instant, en tout cas avec le PSG. Bon, c'est un discours d'entraîneur, coach, hein. Ouais, il met un peu la pression.
Quand tu tiens un groupe avec Paris Saint-Germain, Juve et Benfica, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour Benfica, normalement, il y a Paris Saint-Germain et la Juve qui sont un peu au-dessus de Benfica.
Je vais accueillir Pierre-Antoine, supporter du PSG au 32-16. Salut Pierre-Antoine.
Bonjour Nico, bonjour Lionel.
Heureux de t'accueillir dans l'Interest sur RMC. Est-ce que tu es inquiet ou tu es serein avant ce match?
Bah, en fait, j'appelle parce que j'ai un peu honte. J'aimerais que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Parce qu'on est le Paris Saint-Germain, on est une belle équipe. On a un beau collectif, on a quand même de super individualités, et ce match me fait flipper. Ce match me fait flipper parce que, au-delà de toutes les qualités que vous avez déjà évoquées sur le Benfica, je ne me trouve pas complètement serein, je ne me trouve pas complètement rassuré dans le jeu. On revient d'une semaine internationale et d'un match à Nice qui n'était pas brillant, et on devrait normalement y aller avec beaucoup de certitude, avec une sérénité, tout en respectant Benfica parce que c'est un très bon club et parce qu'ils développent un très beau jeu, il n'y a pas de problème avec ça, mais on devrait être favori. Et aujourd'hui, en tant que fan du PSG, j'ai les boules. Je le sens pas, ce match.
Tu le sens.
Voilà. Donc, du coup, aidez-moi à mieux le sentir, s'il vous plaît.
Bon, on a des raisons, on va les développer.
J'ai pas très bien compris.
Bah, il est un petit peu inquiet parce qu'ils sont pas
que
le PSG.
Ce que j'espère, c'est que c'est de voir. J'ai trouvé que c'était mieux quand même dans le collectif. C'était moins mal ces derniers temps parce qu'il y a deux matchs en arrière encore. Le collectif était perdu, je suis d'accord avec toi. Alors qu'au début.
De saison, on trouvait que, et notamment Neymar, Messi, Mbappé, enfin toutes les stars qui faisaient jouer un peu leurs individualités l'année dernière, et très souvent, pour pas dire presque tout le temps, sauvés par Mbappé. Et là, c'était la force du PSG. Et j'adorais, je pense que toi aussi, t'adorais ce collectif-là où ces grandes individualités se mettaient au profit du collectif. Ça, c'était perdu. Allez, il y a 3 matchs en arrière, c'est revenu un petit peu. J'ai l'impression que la tendance est à revenir à ce qu'était le PSG du début de saison. C'est vrai que si le PSG, moi aussi je vais flipper, si je les vois jouer, si je revois Neymar faire des trucs individuels, essayer de refaire ses gris-gris qu'on ne voyait plus, mais on les a revus là encore le dernier match, on l'a un petit peu vu, donc ça m'emmerdait. Par contre là, moi je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait rejouer en équipe. C'est ce qui me fait espérer, parce que c'est quand même mieux que ce que c'était il y a 3 matchs.
Mais Lionel, tu dis ça par rapport au match de Nice ?
Nice et l'autre, c'était qui ? Nice et Lyon, c'était mieux aussi. Par contre, contre Maccabi et surtout contre Brest, c'était... Waouh, j'ai eu peur. Brest, c'était le pire. C'était le pire, où les joueurs jouaient vraiment en individuel.
Ouais. Un PSG chacun qui retournait dans ses travers, effectivement.
Alors, voilà, exactement.
Avoir trouvé un nouveau PSG...
Alors, c'était mieux contre Lyon, c'était encore mieux contre Nice. Alors après, Nice, le problème qu'il y avait eu contre Nice, et peut-être que t'es comme moi, il y avait une certaine maîtrise.
Ils se sont endormis après le 1-0, quoi.
C'est ce qui me fait peur quand le PSG pense maîtriser et qu'il ne maîtrise pas parce qu'il s'endorme, et ça fait peur.
Pierre-Antoine, depuis plusieurs saisons maintenant, Air Qatari au PSG, le PSG se loupe rarement dans les gros matchs en phase de poule.
Moi je me souviens quand même d'un match contre Naples, on passe à la dernière minute sur une superbe frappe de Di Maria.
On passe, mais c'est pas très beau.
En fait, l'époque Zlatan, on passe toujours hyper facilement. Par contre, depuis, on va dire, l'époque Neymar, il y a des hauts et il y a des bas, et parfois on passe un peu tout juste. Il y a des fois on finit deuxième du groupe. Donc on passe à chaque fois, Sanico, c'est implacable, il n'y a rien à dire. Souvent ça se passe très très bien, mais il y a eu quand même pas mal de fois dans les dernières campagnes où c'était ric-rac. Ric-rac pour finir premier.
Coach, est-ce que tu partages l'inquiétude de Pierre-Antoine ?
Ben, si tu veux, l'inquiétude de Pierre-Antoine, je la partage, mais j'ai même pas besoin de prendre certains matchs qui étaient des matchs moyens contre Brest, contre Nice, pour être inquiet. Je suis inquiet, je suis pas inquiet de Nice et de Brest, je suis inquiet de Benfica. Et donc, de voir un petit peu ce qui va se passer quand on peut parler d'un test, et on peut parler d'un adversaire qui est l'adversaire certainement l'adversaire le meilleur que le Paris Saint-Germain ait pu rencontrer depuis le début de saison. Donc on va voir ce que ça peut donner.
Bon, je rappelle également que le PSG a quand même pour lui, Pierre-Antoine, une grosse expérience par rapport au Benfica, hein, qui en manque. Exactement. Cruellement individuellement, je parle des joueurs. Un exemple, très statistique, certes, mais quand même, Messi, Neymar, Mbappé, c'est 204 buts en Ligue des Champions. Benfica, tout joueur titulaire ce soir, c'est 14 buts cumulés. Marquinhos en a marqué 9 déjà. Et puis dans un instant, on va parler de Marco Verratti.
Nico, si tu me permets une transition, moi tu me fais une belle passe décisive, parce que certes, je te rejoins sur tout ce que tu dis sur l'attaque, surtout que le PSG sait quand même, au-delà de toutes les craintes, c'est élever son niveau de jeu sur des grands rendez-vous, on le sait. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est la défense. Moi, Marquinhos, depuis le début d'année, je suis désolé, il n'est pas au rendez-vous. Et sachant qu'on a Danilo à côté, qui n'est pas technique, mais par contre qui est présent physiquement et qui sait imposer son physique à nouveau, moi je suis pas rassuré par cette défense. À la limite, milieu attaque, même si un milieu à deux, voilà, on sait que ça peut être un peu compliqué, mais on peut tenir la balle et bien la faire développer vers l'avant. Par contre, la défense, moi, elle m'inquiète. C'est le point qui m'inquiète le plus. De Donnarumma, j'espère qu'il va pas nous faire.
Je te rejoins. Et donc, quand on vient de voir un petit peu la relance du gardien du Celtic, et que c'est la mode de relancer systématiquement, quelle que soit la position des adversaires, quel que soit le nombre des adversaires dans les 20, dans tes 20 mètres, ne pratiquement jamais jouer un ballon long, ça m'inquiète beaucoup. Donc, surtout quand on a un jeu au pied très moyen, comme c'est le cas de Donnarumma.
Jeannot et Fabrice, également un mot sur la nouvelle pépite qui sort du centre de formation de Benfica, et Gonçalo Ramos.
Ramos,
que le PSG, je crois, Fabrice et Jeannot, a sondé au cours de l'été.
C'était lui la piste privilégiée avant de s'intéresser à Ekitike du stade de Reims. C'est fabrication maison, et cette saison il est en train de prouver qu'il a atteint vraiment un très haut niveau avec 8 buts et 6 passes toutes compétitions confondues. Il a fait son apparition récemment en septembre. C'est tout frais en équipe nationale, même s'il a il n'a pas joué. C'est un garçon qui est, comment dire, tignous, qui va sur tous les ballons, et c'est un petit peu d'ailleurs la référence du jeu demandé par Roger Schmidt, avec ce bloc très haut qui vient gêner la première relance. Et c'est en ce sens aussi que ce match-là va être un test pour le Paris Saint-Germain, avec sa façon de jouer au pied avec son gardien Donnarumma et cette relance très courte qui parfois donne un petit peu le sentiment que les Parisiens peuvent se mettre en difficulté. Donc c'est déjà lui quelqu'un qui va défendre très haut sur les premiers ballons adverses, mais alors après ça va vite, ça appel et contre-appel, et surtout c'est quelqu'un qui est très puissant dans la surface de réparation
et qui a de très très grandes ambitions. Jeannot, tu le disais, et c'est vrai, le Paris Saint-Germain était sur lui, et généralement d'ailleurs quand Luis Campos est sur un joueur, quand il surveille un joueur, ça veut dire qu'il faut le regarder de très près, ce Gonzalo Ramos. Il était surveillé par Luis Campos, donc tout simplement il va vouloir aussi briller, se montrer pour éventuellement taper encore une nouvelle fois et confirmer tout le bien que pense le staff parisien de lui.
C'est un joueur qui est estimé aux alentours de 100 millions d'euros en tout cas, hein, par le Benfica Lisbonne, c'est le jeu bien sûr.
Et que Benfica est prêt à vendre, hein, d'ailleurs, même si ça n'a pas marché cet été, même s'il n'y a pas eu de grosses propositions à part donc cet intérêt du Paris Saint-Germain. Benfica a été très clair là-dessus, hein, s'il y a une proposition, même lors du mercato d'hiver, à hauteur de 90 millions d'euros, 100 millions d'euros, ils sont prêts à le lâcher.
Attention également, puisque Pierre-Antoine est toujours avec nous, à l'ambiance dans ce stade mythique, le stade de la Luce. Christophe Galtier a prévenu ses joueurs, écoutez.
Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Ce stade pousse très très fort. Mais j'ai des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu par rapport à cela. Est-ce qu'on sera capable de jouer et de bien jouer avec la pression, évidemment la pression du public, mais en effet c'est la pression qu'il y aura sur le terrain et les pressions exercées par nos adversaires. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Je pense qu'on en a les qualités, vraiment les qualités. Et avec beaucoup de concentration et de détermination, je pense qu'on peut être aussi très dangereux.
Bon, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, coach.
Ça peut être, Nicolas, déjà, un soir historique pour le Paris Saint-Germain, historique pour le football français, parce que le PSG n'a jamais gagné ici. Ils ont eu 3 défaites en Ligue Europa, et la dernière c'était sous Laurent Blanc, avec une qualif certes en poche déjà pour les 8e de finale, mais une défaite de 2-1. Et aucun club français n'a gagné ici face à Benfica. 15 matchs au total, 10 équipes: Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Bastia, Lille, Paris, donc Lyon et Monaco. Donc voilà, il y aura cette valeur historique que de pouvoir peut-être enfin, en tout cas on l'espère, voir un club français et le PSG s'imposer ici. Et s'imposer ici, c'est quasiment le billet pour les huitièmes de finale dès la troisième journée.
Bon, alors, il y a Christophe, vas-y, Galtier, simplement Nico, Christophe Galtier qui parlait de pression, ça va être très intéressant parce qu'on l'a vu à Haïfa notamment, ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dedans, ils se sont fait surprendre, il y avait une grosse pression aussi avec une équipe qui allait les chercher très haut. Ça va être sans doute le cas du Benfica ce soir. Donc, et Lionel, comme coach le disait tout à l'heure, gros test aussi à ce niveau-là, comment est-ce qu'ils vont réagir à cette pression du public, à cette pression sans doute des joueurs. C'est vraiment là où on les attend, le Paris Saint-Germain.
Il y a Fafa qui nous dit sur Direct Studio, Lionel, excuse-moi, les gars, si on a peur du Benfica, ça va être quoi contre City, le Bayern et compagnie? C'est vrai que peut-être qu'on a une approche un petit peu, comment dire, un peu trop
partielle. On est dans l'instantané, Nicolas. Nicolas, on est dans l'instantané.
Bien sûr.
Parce que Benfica a gagné ses deux matchs, parce que Paris a gagné ses deux matchs, et que déjà c'est un choc. Déjà, c'est s'ouvrir les portes des huitièmes de finale. Et que dans ce stade-là, à part récemment Liverpool et le Bayern Munich, personne n'a réussi à s'y imposer. Donc, c'est qu'il va y avoir un match compliqué pour le Paris Saint-Germain. C'est pas avoir peur de Benfica, c'est d'être réellement conscient que face à Benfica, voilà, ça commence un petit peu à monter avec les gardiens parisiens et Donnarumma qui rentre sur la pelouse et le stade qui se remplit petit à petit. C'est que face à cette équipe du Benfica, tu ne peux que te dire qu'il y a un risque ce soir. Il existe, il est réel.
Ben oui, si tu veux, qu'on soit d'accord. Je comprends bien, dans le sens que finalement c'est pas Benfica qui fait peur, c'est Paris Saint-Germain qui est inquiet de pas pouvoir être sûr de battre Benfica. Mais on va voir ça avec beaucoup d'attention. Et après, on sait très bien que si Paris Saint-Germain gagne ce soir, ben la qualification, elle sera pratiquement OK. Mais la qualification, on l'a vu la saison dernière, ça ne suffit pas. Il faut terminer premier.
On se souvient de la saison dernière.
Pas second. Et la saison dernière, de terminer second, c'est tout à fait rencontrer le Real Madrid.
Le Real Madrid. Vas-y Lionel.
Il y a une différence notable entre aller jouer dans un stade plein avec une ambiance extraordinaire à Maccabi, à Haïfa, et ce soir à Benfica. C'est-à-dire que ce soir, tous les joueurs qui ont mis les pieds dans ce stade ont eu des difficultés, quoi qu'il arrive, que ce soit Messi, Mbappé, Neymar, enfin tous les grands ont eu des difficultés. Ils savent que ce soir, et ils ont été prévenus, Maccabi Haïfa, tu peux, au-delà de l'hostilité, de l'ambiance et tout ça, tu te dis ouais mais bon, ça peut passer, il y en a plein qui ont gagné.
Il y a un complexe de supériorité en Israël.
Bien
pour
sûr,
les
moi je pense c'est la grosse différence.
Je remercie Pierre-Antoine d'avoir fait le 32-16. Enfin, merci j'espère. Pierre-Antoine. Très bonne soirée,
salut,
quand
Pierre-Antoine.
Tu veux.
Une petite conclusion.
Vas-y, Pierre-Antoine.
Alors, c'est extrêmement rapide. Autant je vous dis, j'ai un peu peur des joueurs et de la pression. Vous l'avez répété plein de fois. Par contre, sur l'ambiance, on a quand même sur des joueurs qui ont tous cette expérience des grands stades et des grandes ambiances. Moi, je suis pas inquiet par rapport à ça pour eux. Ça, ils vont savoir le maîtriser, ils vont savoir passer au-dessus et ils vont savoir, limite, pour certains, en tirer leur force. Par contre, ça, pour le pressing que vont mettre les Portugais tout de suite et la force collective qu'ils vont avoir, là, oui, il peut avoir quelques craintes, tout en se disant qu'on est quand même le Paris Saint-Germain et qu'on ne doit pas y aller en ayant peur.
Et justement, voilà. Ce pressing intense exercé par le Benfica, on va en parler dans un instant. Heureusement, Marco Verratti est de retour ce soir. Pierre-Antoine, merci, à très
merci
vite sur
beaucoup,
RMC. Reste avec nous dans moins
bonsoir,
de 32 minutes désormais. Le coup d'envoi de ce match, troisième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Benfica, Lisbonne, Paris Saint-Germain. On va se diriger tranquillement vers le stade, retourner à Lisbonne avec Jeannot Ressegui, Fabrice Oquin. C'est à mes côtés coach Courbis et Lionel Charbonnier. Vous écoutez RMC l'After Live 20h28. À tout de suite.
RMC l'After Live.
Nicolas Jamin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'After Live spécial Ligue des Champions sur RMC. Grande soirée, troisième journée, phase de poule. Le Benfica Lisbonne qui reçoit le Paris Saint-Germain dans moins de 27 minutes. Le coup d'envoi de ce match. Jeannot Rességuier, Fabrice Hawkins au commentaire à mes côtés. Lionel Charbonnier et coach Courbis. Messieurs, parlons du retour. J'allais dire à point nommé de Marco Verratti, puisqu'on l'a dit il y a quelques minutes, grosse pression attendue, gros pressing attendu par les joueurs du Benfica sur le PSG. Ça va être intéressant de voir également comment ce duo Verratti-Vitinha va réussir à déjouer ce pressing, coach.
Oh ben disons qu'on a déjà vu l'habileté de ces deux joueurs en ce qui concerne Verratti, mais normalement il devrait être en pleine forme. On le sait quand même assez fragile en ce qui concerne le côté musculaire, donc on espère que tout ira bien et surtout qu'il garde son calme pour ne pas prendre bêtement ce traditionnel carton jaune.
Jeannot,
c'est une blessure au mollet contre l'Olympique Lyonnais avant la trêve qu'il avait fait constater avec l'Italie, qu'il avait empêché de participer aux deux matchs de septembre. On connaît la difficulté de se remettre d'une blessure à un mollet c'est ça qu'il va falloir surtout surveiller. Après, tu as raison d'insister sur la façon dont il se comporte sur un terrain, et surtout par rapport au fait que il y a le risque de prendre ces cartons stupides, mais quelque part, c'est surtout le mollet qu'on va examiner de près.
C'est l'endroit.
Parce que c'est un match où il va y avoir beaucoup de défis physiques.
C'est le plus traître.
Tiens, justement, Karema est avec nous,
32-16. Parce qu'on a vu Renato Sanchez rechuter. Voilà, je veux pas lui souhaiter du mal, bien évidemment, mais faut faire attention à ça. Il y a cette possibilité de rechute avec une blessure au mollet.
Karima, qui va te rejoindre dans un instant, mon cher Jeannot. Salut, Karima.
Allô ?
Oui, bonsoir Karima, bienvenue dans l'After Live sur RMC.
Bonsoir l'équipe. Moi je voulais réagir par rapport à la titularisation de Marco Verratti. Je comprends pas pourquoi il est titulaire en sachant que il est blessé, il revient de blessure et on le met systématiquement alors qu'on pourrait tester des gens comme Fabian Ruiz. Si on les teste pas maintenant, je vois pas à quel moment on va les tester. En Champions League, quoi. Donc, je trouve que c'est une mauvaise gestion de la part de Galtier. Et voilà, quoi. Moi, je suis un peu dégoûté du début de saison, quoi.
Lionel, qu'est-ce que t'en penses ?
Après s'entraîner. Moi, je pense que quand tu joues des matchs comme ça, t'as besoin de certitude. Et là, que ce soit,
les certitudes, Lionel, je suis désolé, mais à un moment donné, si on arrive à changer les joueurs à ce moment-là. Je vois pas comment on va pouvoir les faire jouer, les faire rentrer. sur la seconde partie de la saison, quoi. Enfin, je trouve ça.
Étant donné qu'il revient de blessure, bah là, pour moi, le seul souci, c'est si tu mets un joueur blessé. Alors, t'as les deux options. Mais si tu mets un joueur blessé sur le terrain, que tu le fais rentrer et qu'il se reblesse tout de suite, t'es dans la mouise. Parce qu'il faut le rechanger, donc tu fais deux changements. Par contre, là, en revenant de blessure, t'as la certitude que le mec, il sait supporter la pression. Normalement, s'il se reblesse, bah, tu peux le changer tout de suite, tu fais qu'un seul changement. Que si tu le fais rentrer et qu'il se blesse, ça te fait deux changements tout de suite. Et ça, c'est une grosse prise de risque aussi. Moi, je serais à la place de Galtier, j'aurais fait la même chose.
Attends, on donne la parole à coach, vas-y Fabrice.
Bon, il a donné vraiment des garanties aussi à l'entraînement hein, cette semaine, Marco Verratti, notamment sur les deux derniers entraînements. Ils se sont bien, donc c'est vrai que Christophe Galtier, il n'a pas forcément hésité, d'autant plus que sur cette rencontre, comme le disait Lionel, il va y avoir beaucoup de pression. On l'a vu contre Nice notamment, parfois ils ont eu du mal à ressortir le ballon, et on le sait, Marco Verratti est très performant dans ce domaine. Fabien Ruiz n'a peut-être pas encore donné toutes les garanties pour directement être titulaire s'il y a une hésitation autour de Marco Verratti, mais c'est vrai que ça, la question s'est même pas posée parce qu'il s'est bien senti vraiment cette semaine à l'entraînement, Marco Verratti.
C'est une certitude qu'on a avec Verratti qu'on n'a pas forcément avec Fabien Ruiz. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu sous pression dans un grand stade avec cette nouvelle équipe, et avant qu'il n'a pas encore ses marques. Pour moi, ça reste un petit peu trop tôt, et cette ressortie de balle, l'interception de Verratti telle qu'il sait les faire, et cette première verticale qu'il est capable de mettre, ça on est sûr que Verratti la maîtrise. Pour Fabien Ruiz, pour l'instant, c'est encore une inconnue, c'est peut-être prendre un petit risque, peut-être, c'est pas sûr, Karima. Mais en tout cas, on n'a pas cette certitude qu'il puisse la faire.
Marco Verratti fait partie des quatre quand même de cette équipe, hein, comme Neymar, presque comme Mbappé. Quand
oui,
il
non,
a 100%,
après, moi,
la question
ça,
se pose pas réellement. Il est solaire dans le groupe. C'est quelqu'un vraiment qui fédère aussi, qui est très très apprécié de tout le monde. Donc c'est vrai que quand il a 100% Marco Verratti, bah, il est sur le terrain.
Attends, Karim, avant de te rendre la parole, coach voulait intervenir et te répondre.
Dans tous les cas, j'écoute attentivement ce que dit Karima, et ça me donne l'impression qu'elle est très compétente et passionnée de football. Mais ne nous trompons pas d'importance de match. Le match de ce soir est très important, pas seulement pour la qualification, pour terminer premier. Et quand on a la possibilité de récupérer Verratti, même si c'est que pour une heure, eh bien après on le fera souffler trois jours après à Reims. Le staff médical a regardé la blessure et il a le feu vert pour jouer, qui est nettement meilleur avec Verratti pour lutter contre le pressing de Benfica qu'avec Ruiz. Que si je dois lui mettre une note à Ruiz sur ce que j'ai vu l'autre jour, ben je lui mets 5 sur 10 quand je suis en forme. Hein.
Effectivement. Karima, tu voulais réagir ?
Non, mais moi je trouve dommage de ne pas faire les tests pendant ces matchs de poule. Certes, il faut se qualifier,
oui,
mais tous les ans on entend la même chose.
Le prochain match, Karima, il y a un match à Reims qui n'est pas évident du tout contre une équipe qui lutte pour le maintien, mais il y a la possibilité
c'est vrai qu'il y a plein de blessures, il est un peu court. Enfin voilà quoi, moi j'aurais préféré qu'il fasse un peu tourner.
Il ne jouera pas une heure et demie. Hein.
Bon. Oui, non, mais bon, après, on n'est pas d'accord, c'est pas très grave.
Merci Karima d'avoir fait le 32-16, tu reviens quand tu veux, bien sûr. Bonne soirée.
Merci,
à toi.
Merci, à bientôt.
Allez, bien,
à très vite, Karima. L'Afterlife continue, bien sûr, dans moins de 20 minutes désormais, le coup d'envoi de ce match entre le Benfica Lisbonne et le PSG. On va parler de Lionel Messi dans un instant. Messieurs, retour en forme du septuple Ballon d'Or. On écoutera Christophe Galtier qui en a parlé en conférence de presse cette semaine. Restez avec nous et coach Courbis, Lionel Charbonnier, Jeannot Séguier, Fabrice Hawkins. À tout de suite.
RMC, l'Afterlife.
Nicolas Jamain.
Dans 15 minutes, un peu plus, le coup d'envoi du match Benfica-Lisbonne, Paris Saint-Germain, troisième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Sur place, au stade de la Luz, Jeannot Séguier, Fabrice Hawkins à mes côtés, coach Courbis et Lionel Charbonnier. Dans un instant, Nico Villas prendra le relais, bien sûr. Messieurs, c'est terminé entre Salzbourg et Dynamo Zagreb. Victoire du RB Salzbourg, 1-0, un but refusé au Dynamo en fin de match, hein, le but de l'égalisation à cause d'un hors-jeu après l'assistance vidéo. Et puis ça va se terminer, hein, c'est terminé à l'instant. La victoire du RB Leipzig face au Celtic, 3-1. Parlons donc de Lionel ou Léo Messi, c'est plus le Ballon d'Or, qui semble enfin avoir pris la mesure de sa vie en France. On se rappelle, c'était un peu génie quand même, hein, après coach, je l'avais dit plusieurs fois, hein, après 21 ans à Barcelone, arrivé à 13 ans, difficulté d'intégration dans la vie française, mais également
c'est tout simplement logique qu'il puisse avoir du mal, tout Ballon d'Or qu'il pouvait être, tout grand joueur qu'il pouvait être. on se sépare pas de 21 ans d'un endroit avec des habitudes. Donc c'est, ça me paraissait être logique. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Et puis en plus de ça, il y a son équipe nationale qui marche bien, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Tout est réuni pour qu'il y ait une mobilisation et une concentration d'un joueur comme Messi. Même chose pour Neymar.
Il y a les statistiques qui témoignent de sa nouvelle implication au PSG. 12 matchs, 7 buts, 8 passes décisives. Écoutez Christophe Galtier justement, qui parlait en conférence de presse de son joueur, Lionel Messi.
Il est bien dans sa tête, très heureux tous les jours quand il vient s'entraîner. La saison dernière a été compliquée pour lui, mais il avait des circonstances atténuantes. Il est heureux, et quand Léo est heureux, il est automatiquement performant, et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens tout au long de sa carrière. Cette année, il reprend goût à marquer, il arrive à marquer, il est décisif. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde? Oui.
Bon, il n'y avait pas de contraire, Christophe Galtier, bien sûr. Vous y croyez-vous ou pas? Le Messi, redevenir pas forcément le Messi de sa grande époque barcelonaise, mais le meilleur joueur du monde, Lionel?
J'y crois pas, parce que c'est normal, il vieillit.
35 ans.
Maintenant, j'ai toujours cru en lui. Il vieillit. Enfin, quand je dis vieillit, il a un jeu de toute façon qui était fait de rapidité, comment, dans sa vitesse de course, mais rapidité aussi gestuelle et tout ça. Donc, en vieillissant, ce sont les premières choses que tu perds. Mais ceci dit, il joue différemment. L'année dernière, il était en train de s'acclimater. Faut dire aussi, je rajouterai juste par rapport à l'année dernière, que quand même, il a vécu une grosse, énorme désillusion. On l'a vu effondrer en larmes après avoir quitté son club de cœur, sa famille. C'était très compliqué. Et en plus, il n'a pas pu faire toute la préparation. Donc tout ça, c'était en plus de tout ce qu'a dit coach. Donc c'était très compliqué. Mais moi, redevenir ce qu'il était, non. Mais ça, continuer à s'améliorer continuer à être un des meilleurs joueurs du monde, oui.
Alors, il a débuté, c'est important, Fabrice et Jeannot, hein, tous les matchs du PSG cette saison.
Oui, et c'est le seul qui n'est pas allé sur le banc de touche, qui n'a pas fait qui n'est pas passé par la case banc de touche. Neymar était sur le banc contre le FC Nantes. Kylian Mbappé était sur le banc lors du dernier match contre Nice. Lui continue à jouer. C'est vrai, comme le disait Lionel, il s'est réinventé derrière les deux attaquants, avec un jeu peut-être moins dans les courses, moins dans le changement de rythme, plus vers la passe. Et c'est vrai que contrairement à la saison passée où il n'avait pas eu de préparation, là il est arrivé fit, il est arrivé prêt avec une vraie préparation. On le voit, et tu l'as dit tout à l'heure Nico, il est prêt au niveau des stats également. On sait que le Paris Saint-Germain aimerait le prolonger. C'est pas encore en discussion. Léo Messi va se laisser le temps de choisir s'il continue ou pas l'aventure au Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. Mais on sent vraiment que de son côté et de la part du Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas le cas la saison passée, tout le monde est content.
Ne perdons pas de vue le début de saison de Messi, on y rajoute celui de Neymar. Ne perdons pas de vue que ces deux joueurs-là ont fait du Qatar leur principal objectif, de lever la Coupe du Monde en décembre prochain. Ça fait partie très certainement de la préparation, de la motivation pour Léo Messi, qui va disputer sa dernière Coupe du Monde, la possibilité pour la dernière fois d'être champion du monde. Avec le Brésil, tout le monde en parle, tout le monde cite ces deux nations comme de véritables favorites pour la compétition. On y met l'équipe de France parce qu'il y a le tenant du trophée, et que on l'a vu par le passé et par l'expérience, c'est toujours difficile de ramener une autre étoile consécutivement 4 ans après. Mais je pense que ça fait partie justement de ce que l'on peut voir de Messi aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. J'y rajoute Neymar parce que ces deux-là ont le même objectif, c'est-à-dire de réussir leur première partie de saison en club pour atteindre du très haut niveau au moment de la Coupe du Monde.
Qui t'impressionne le plus sur ce début de saison, coach, entre Messi, Mbappé, Neymar?
C'est difficile à dire, mais bon, compte tenu de celui qui est le plus surprenant, parce qu'on ne s'y attendait pas, ça reste Neymar quand même. Mais après, on a l'explication. Hein. L'explication, c'est une concentration obligatoire parce qu'il a été vexé. Et ensuite, la coupe du Monde, ou lui aussi. Il n'y a pas seulement Messi qui a envie de gagner la Coupe du Monde avec son pays. Neymar est dans la même situation que Messi et qu'Mbappé. Et là, ce sera amusant.
Ils ne pourront pas tous les trois la gagner.
Mais voilà, mais puis bon, et peut-être il n'y aura aucun des trois qui va la gagner. Mais s'il y en a un des trois, on verra après, après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passera pour les deux qui rentrent avec.
Disons, tu penses qu'il vaut mieux que Messi, Mbappé ou Neymar gagnent la Coupe du Monde pour le Paris Saint-Germain et la suite de la compétition?
Ben, bon, je suis chauvin en tant que Français, donc Mbappé.
En tant que supporter parisien, c'est une vraie question qu'on se posera peut-être plus tard.
Ouais, mais pour le PSG, très certainement qu'il y en a un des trois qui la gagne, ça sera bien.
Ce sera bien, effectivement. Faudra voir. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de démobilisation après le mondial, hein, après une déception, même une victoire d'ailleurs.
C'est une autre, toute autre saison qui va débuter à partir de janvier 2023.
C'est vrai que Fabrice, toi qui suis le PSG au quotidien, Messi, dans son langage corporel, n'est plus le même, incontestablement.
Oui, et puis on l'a vu franchement dès le départ, hein, dans les prémices de cette saison, très très souriant à l'entraînement. Il a pris aussi un petit peu plus de place dans le vestiaire, là où il était, où il paraissait parfois absent, hein, de sur ce très très proche du vestiaire. Là, c'est vrai qu'il est à l'aise, il rigole un petit peu avec tout le monde, il n'hésite pas à recadrer, il n'hésite pas aussi à discuter avec les petits jeunes, à donner des conseils. D'ailleurs, les plus jeunes de ce vestiaire apprécient énormément, hein, Léo Messi. Donc c'est vrai que c'est important aussi pour eux, pas seulement d'avoir l'icône à côté de soi sur le banc de touche. Enfin, pour le coup, Lionel Messi va pas beaucoup sur le banc de touche, mais dans le vestiaire, mais aussi de l'avoir, de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir grandir avec lui. Il a pris cette place qu'on attendait qu'il prenne, et ça, c'est très intéressant pour tout le monde à Paris.
L'aigle du Benfica qui est en train de survoler les stadios d'Alous avant d'aller se poser à l'endroit précis, juste à côté du rond central, sur un support qui l'attend. C'est pas Messi, mais ça y ressemble beaucoup.
Mais c'est pas le Messi niçois, effectivement.
Non.
La tradition, elle est plus ancestrale, encore plus ancienne, au stade de la Luz pour le Benfica. C'est magnifique, hein, avec
Il prend son temps. Ah, il prend vraiment son temps là.
Avec le rouge et le blanc noué autour de ses pattes, c'est superbe.
Le stade, ouais, tout à fait, avec le rouge et le blanc qui scintille et qui s'envole derrière lui. Voilà, et il va aller quelques petites secondes se poser quand il en aura envie. Hein. Pour l'instant, il a pas envie.
C'est quand même marrant parce qu'il connaît son rôle. Hein. C'est incroyable.
Je pense qu'il sait qu'il y a à manger au bout, peut-être, tu vois. Il sait ce qu'il veut faire.
Oui, tu vois, une petite récompense.
Voilà, une petite récompense. Du
sol, c'est incroyable, voilà, c'est magnifique.
Et hop, acclamé par le public.
Et il se pose pile sur son perchoir, magnifique. J'aime les traditions, les gars. C'est superbe.
Le stade qui s'est bien garni d'ailleurs, hein, avec la présence aussi des ultras parisiens. On sent que c'est en train de monter.
Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore arrivés, hein. On est loin des 3200, parce qu'il faut dire qu'il est prévu qu'ils arrivent pour la plupart au dernier moment, et certains ont pris le métro. Il y a d'ailleurs quelques vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on les voit faire la vague dans le métro. Mais bon, ça fait quand même quelques petites complications pour arriver à sortir du métro et à venir jusqu'au stade, mais ça se fait tranquillement, en tout cas pour l'instant.
Et ça va être une superbe ambiance ce soir, hein, dès maintenant et jusqu'à la fin de la rencontre. Je rappelle qu'on va suivre tous les matchs de la soirée, au-delà de ce Benfica PSG, la Juve en difficulté qui reçoit le Maccabi Haïfa dans le groupe H. Un gros Chelsea Milan, c'est une des affiches de la soirée. Chelsea qui est dernier pour l'instant de son groupe E. Je rappelle que l'RB Salzbourg s'est imposé 1-0 face au Dynamo Zagreb. Également ce soir, le Real Madrid qui reçoit le Shakhtar Donetsk. Et dans le groupe G, Séville, Dortmund, Borussia, City, Copenhague. Pour le programme de la soirée, parions bien sûr sur le match qui nous intéresse plus particulièrement, Benfica Paris Saint-Germain.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Guillet. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Alors les cotes de ce match, est-ce qu'elles sont déséquilibrées?
Elles sont déséquilibrées, mais elles commencent à être très intéressantes là. Nico, c'est 3,80 la victoire de Benfica. On quadruple la mise pour le match nul. 1,88 la victoire de Paris. Paris était à 1,70 il y a encore 2 heures. Wow. Donc quasiment 0,2 gagné en à peine 2 heures, c'est assez énorme. Ce que je vais vous proposer, messieurs, étant donné que Benfica à domicile, c'est 7 victoires en 7 matchs, 23 buts marqués, 5 encaissés, et que Paris à l'extérieur, c'est 6 victoires en 6 matchs, 22 buts marqués pour 2 encaissés, c'est Paris qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,90, ça me paraît pas mal. Sinon, on peut se tourner vers les buteurs. Mbappé, buteur, on double la mise, c'est pas tous les jours. Messi ou Neymar qui marquent, enfin, soit Messi, soit Neymar séparément, 2,35. Également pour chacun d'eux. Écoute, c'est pas tous les jours.
Mais écoute, je vais pas détailler mon pronostic dans le sens que c'est un match où je vois les deux équipes marquer, mais je sais pas si je me trompe pas. Le 1 partout, le 1-2 ou le 2-1, donc je prends pas de risque. Les deux équipes qui marquent et Mbappé que je trouve en forme avec cette rentrée et ce but dans le dernier match, donc que Mbappé puisse continuer sur cette lancée et marquer ce soir, je ne serais pas étonné du tout. Donc but d'Mbappé.
Les deux équipes qui marquent plus Mbappé buteur sans donner de vainqueur, c'est 2,55. Là aussi, c'est assez énorme pour le
Lionel.
Bah écoute, moi je vais rester sur
je suis chauvin.
Moi je suis chauvin. Donc victoire du PSG avec un PSG qui ouvre le score, but de Messi et Mbappé.
C'était à 5,70 ça ce matin, Lio, c'est passé à 6.
Voilà.
Merci Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, dans moins de 5 minutes, le coup d'envoi de ce match. Troisième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Benfica, Lisbonne, Paris, Saint-Germain. Quel meilleur animateur que Nico Villas pour cette soirée franco-portugaise, bien sûr. Avec Coach Courbis, Lionel Charbonnier, Jeannot Rességuier et Fabrice Hawkins au stade. Le stade est magnifique, le décor est planté, l'ambiance sera superbe. Benfica PSG sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'Afterlife.